Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Plus sur 104.3 et l'émission L'heure flamande préparée par Michel et Marie-Jo.
Alors, chère auditrice, chers auditeurs, vous qui êtes fidèles à Radio Plus, vous avez sans aucun doute remarqué que durant ce mois de janvier, eh bien, notre émission L'heure flamande était assurée par des rediffusions. Quelques problèmes de santé nous ont contraints au repos, mais soyez rassurés, Marie-Jo a repris son poste. J'en profite d'ailleurs ici pour remercier tout particulièrement Christophe et son équipe, Jean-Philippe et Julien, qui nous ont aidés à franchir cette mauvaise période. Merci aussi et surtout aussi à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité à Radio Plus. C'est une radio qui est vraiment à nulle autre pareil et ce n'est pas qu'un slogan publicitaire. Vous pouvez le constater chaque jour grâce au dynamisme de cette équipe formidable par le choix très varié des programmes, divertissement, culture, mise en avant du travail des bénévoles qui sont là pour toujours apporter un peu plus de douceur, de bonheur autour d'eux. Donc un monde pour qu'un monde soit plus juste, plus humain tout simplement. Et donc, aujourd'hui, nous reprenons donc les émissions en direct et nous allons évoquer aujourd'hui en particulier un grand peintre flamand qui s'appelle Jacques Jordaens.
Dit verloren land, in zulke barre tijden, de hongersnood en pest, de arme luiden lijden. Zaligheid en goed zijn alleen voor lieden rijk. De heren van Spanje of die van Oostenrijk. Volk is goed voor het werk, of om er te gaan sterren, de glorie van de Heer. Doet het goed of gaan we derden. En telkens weer in oorlog komt over dit land, zijn de huizen van de armen, die worden verbrand. We zijn drie ongezellen, we zijn sterk en stout. Wij roven om de broden, al wat zilver is en goud. Zolang nog als de beursknecht ons niet is uitgeteld.
Een waarde mandragora groeit op het galgenveld.
Heren en pastoors, wil ik nu vragen halen. Al de pesterijen gaan ze zwaar moeten betalen. Waarom kunnen wij niet als grote heren zijn? Zij drinken en feesten en vreten als een zwijn. Wij zijn drie ongezellen, wij zijn er sterk en stout. Wij roven om de broden al wat zilver is en goud. Zolang nog als de beulsknecht ons niet heeft uitgeteld.
Al waar de mandragora groeit op het galgenveld.
We snijden op de markt, de herenboer zijn beurs. S'avonds in de kroegen, ook die van de seigneurs. Hier dagen goed en kwaad, als vogelvrije bender aan een leven lang van miserie en ellende. Wij grepen er het slot van klooster of kasteel en vallen er de buidel met ons rechtmatig deel. Van koetsen in het bos doen wij de paarden staan, de dag
dat ze ons grijpen, dan is het met ons gedaan.
Wij zijn die ongezellen, wij zijn sterk en stout. Wij roven om de broden, al wat zilver is en goud. Zolang nog als de beurs met ons niet heeft uitgeteld.
Al waar de mandragora groeit op het gouden veld.
Als gij er bestaat, waarom laat gij dan toe dat het onrecht begaat? Wij die het bevochten, ons treft nu de blaam om te sterven aan de strop, alleen uw naam.
La Mandragore. Vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande, émission préparée par Michel et Marie-Jo sur Radio Plus.
Et nous évoquons donc aujourd'hui un grand peintre flamand, Jacques Jordaens, qui est contemporain de Rubens, de Van Dyck, mais il est beaucoup moins connu par le grand public, un petit peu à l'ombre de justement du célèbre Rubens, et pourtant il mérite largement qu'on s'y intéresse. D'ailleurs, il y avait une très belle exposition qui a été consacrée à Jacob Jordaens à Paris, voici 4 ans environ, et qui a permis d'ailleurs de découvrir tout le talent de ce grand artiste flamand. Alors, pour parler de, on va essayer de vous faire découvrir donc la vie de ce grand peintre. Il faut se resituer un petit peu dans l'époque. La Flandre fait partie de des des États espagnols, hein, c'est les grands Pays-Bas espagnols. On vient de vivre plusieurs décennies de guerre de religion entre protestants et catholiques, et les grands Pays-Bas ont fait, se sont divisés en deux parties. La partie nord, donc les provinces unies, donc calvinistes luthériennes, et la partie donc qu'on appellera les Pays-Bas espagnols, plutôt donc catholiques. Alors, Jacob, ou Jacques Jordaens, il est né le 19 mai 1593 à Anvers. Anvers, donc, faisait partie donc de ces grands pays, Pays-Bas espagnols, comme Lille d'ailleurs, hein. À l'époque, il n'y avait qu'une seule Flandre, on n'était pas encore divisé en deux parties comme on l'est aujourd'hui. Son père, c'est un riche marchand de toile d'Anvers. Il mène des affaires très prospères. Il vit d'ailleurs dans les beaux quartiers de la ville. Et même si la ville a subi bien des difficultés à cause, bien sûr, de l'hostilité, en particulier des provinces unies du Nord qui voyaient dans le port d'Anvers, bien sûr, un concurrent à leur propre port, et qu'ils avaient d'ailleurs tenté de bloquer l'accès au port d'Anvers pour affaiblir son économie, mais néanmoins, la ville d'Anvers a toujours réussi quand même à garder, disons, une certaine prospérité. Alors, ces Pays-Bas du Sud, donc catholiques, qui vient donc de vivre plusieurs décennies de guerre de religion, avec en particulier la fameuse guerre des gueux, la guerre des iconoclastes, et aussi la terrible répression du roi d'Espagne, qui mène bien sûr une contre-réforme, et Jordaens vit donc dans ce contexte très religieux. Il est d'une famille très catholique. D'ailleurs, il est l'aîné d'une famille d'une dizaine d'enfants, et quatre d'entre eux vont d'ailleurs rentrer en religion catholique. Jacques Jordaens, il est baptisé dès le lendemain de sa naissance. Il faut le rappeler qu'à l'époque, la mortalité infantile est très forte, et naturellement, les croyances de l'époque disait qu'il fallait absolument que l'enfant soit baptisé, parce que sinon il ne pourrait pas rentrer, bien sûr, au paradis. Jacques Jordaens se montre très vite de belles dispositions pour la peinture, et il rentre à l'âge de 14 ans comme apprenti chez maître Adam van Noort de la guilde de Saint-Luc, qui rassemble les grands peintres de la ville d'Anvers.
Van Heulen, mijn vriendin,
Vous êtes à l'écoute de Radio Plus sur 104.3 et vous venez d'entendre Tineke Van Hul sur l'émission L'heure flamande préparée par Michel et Marie-Jo.
Et nous évoquons donc aujourd'hui Jacob ou Jacques Jordaens. Donc Jacques Jordaens rentre dans comme apprenti chez maître Adam van Noort de la guilde Saint-Luc qui rassemble donc tous les peintres de renom de la ville d'Anvers et en particulier Rubens travaille avec maître Adam van Noort. À noter aussi que Adam van Noort est de confession protestante. Et donc, néanmoins, la famille, pourtant très catholique de Jordaens, confie leur fils à ce professeur, dont Adam van Noort, au-delà des différences de religion, parce que, évidemment, cet atelier est un atelier de renom et prestigieux. D'ailleurs, Adam van Noort aura une très grande influence sur Jacob Jordaens. Jacob Jordaens, d'ailleurs, éprouve beaucoup de malaise face à cette répression qui frappe en particulier donc les protestants. Jordaens apprécie donc son maître et d'ailleurs il finira aussi par courtiser la fille de la maison et l'épouser. Et donc, c'est ainsi que le 15 mai 1616, il épouse Katharina van Noort. Le couple aura trois enfants, Elisabeth, Jacob et Anna Katharina. En 1616, c'est aussi l'exécution d'un tableau, donc l'Adoration des bergers. C'est une des œuvres les plus anciennes qui est signée donc du nom de Jordaens. La plus ancienne, donc, on a repéré. Et ce mariage, évidemment, aujourd'hui, comme on dirait aujourd'hui, fait tousser certains, si bien que Jordaens sera souvent menacé par ses choix, puisque petit à petit, il est de plus en plus séduit par la religion réformée. Alors bien sûr, on peut imaginer que c'est l'influence de sa belle famille, en particulier de son épouse, qui reste fidèle à sa foi calviniste. Toujours est-il, c'est que Jordaens, lui, il est un peu déchiré entre ces deux religions, mais encore une fois, il a beaucoup de mal devant cette répression, cette intolérance. Cela ne l'empêche pas d'ailleurs de travailler quand même beaucoup pour l'Église catholique, qui lui commande très nombreux tableaux, comme pour l'Église Saint-Paul d'Anvers, avec en particulier des tableaux « Les mystères du rosaire ». Jordaens travaille beaucoup aussi avec Rubens, avec lequel il se lie d'amitié malgré les 17 ans d'écart. Rubens, avait déjà une très grande réputation à l'époque. Jordaens, dès 1620, il a alors 27 ans, assure la formation de jeunes apprentis peintres. Thank you.
de Ratten van Gurn, c'est l'attrapeur de rats. Vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande, émission préparée par Michel et Marie-Jo sur Radio Plus.
Et aujourd'hui, donc, nous évoquons Jacques Urdans, un peintre de grande réputation. Et d'ailleurs, sa réputation devient telle que le magistrat de la ville d'Anvers, en 1621, veut le nommer donc doyen de la guilde Saint-Luc, qui est une guilde particulièrement puissante dans la ville d'Anvers. Mais Urdans, tout artiste qu'il est, il s'est compté, il est près de ses sous, comme on dit. Il n'accepte ce poste que un petit peu sous la pression très forte du magistrat de la ville d'Anvers, et d'ailleurs il ne va occuper ce poste que pendant une année. Il donne donc 12 mois plus tard sa démission, car il estime que ça lui coûte beaucoup trop cher pour entretenir ce poste, et donc il donne sa démission au magistrat d'Anvers. Urdans travaille beaucoup donc avec Rubens, et d'ailleurs celui-ci lui confie d'autant plus de travaux que Rubens, contrairement à Urdans, eh bien Rubens mène il est très impliqué en tout cas dans la diplomatie, et qui l'amène beaucoup à voyager à travers l'Europe. Je vous rappelle que les provinces du Pays-Bas, des Pays-Bas du Sud, font partie encore de ce grand ensemble, de ce grand empire hérité de Charles Quint. Et donc il est en relation beaucoup avec aussi bien donc la cour de Vienne, et il traverse souvent l'Europe. Et Rubens, eh bien évidemment, n'a pas le temps de se consacrer à toutes les commandes qu'il reçoit, et il les confie à son ami Urdans. Urdans qui, lui, contrairement à Rubens, voyagera très peu. Il ira de temps en temps donc aux Pays-Bas du Nord, mais jusqu'à Amsterdam, Rotterdam, mais il ne quittera pas beaucoup en fait sa ville d'Anvers. Son beau-père, Adam van Noort, lui, préfère quitter Anvers pour s'établir dans les Provinces Unies du Nord, parce qu'il est un peu lassé de cette hostilité des autorités catholiques envers les calvinistes. Et bien sûr, Urdans n'est pas très à l'aise avec tout ça. Il se sent déchiré à cause de cette situation. Mais lui, il continuera bien sûr à avoir des relations de sympathie avec la communauté protestante, tout en assurant les commandes faites par l'Église catholique. En 1634, la ville d'Anvers, d'ailleurs, lui confie un vaste chantier destiné à célébrer la joyeuse entrée du nouveau gouverneur des Pays-Bas espagnols, joyeuse entrée qui aura lieu le 17 avril 1635. C'est un immense chantier qui mettra bien sûr en valeur tout le travail de ce peintre Urdans. Urdans qui est particulièrement estimé, et malgré bien sûr quelques remarques par rapport à sa confession de la part des calvinistes, mais néanmoins on peut dire que Urdans bénéficie d'une certaine estime de la part de ses concitoyens. Urdans continue donc à travailler avec Rubens, et tous deux assurent une commande reçue par le roi Philippe IV d'Espagne, qui décide de décorer donc son pavillon de chasse. Les affaires marchent plutôt bien pour Urdans, qui achète d'ailleurs une très belle maison bourgeoise au centre de la ville d'Anvers. Sa réputation dépasse largement les remparts de la ville d'Anvers, et il reçoit ici des commandes de la cour d'Angleterre également.
Thank you.
interprété Douce Dame Jolie, une chanson du médiéval. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
Et aujourd'hui, nous évoquons donc la vie de Jacques Jordaens, un grand peintre flamand, contemporain donc de Rubens. Et les affaires de Jacques Jordaens marchent plutôt bien. Et d'ailleurs, il faut savoir que, eh bien, c'était un signe de richesse et de puissance aussi pour la bourgeoisie flamande de l'époque que de posséder dans sa demeure de nombreux tableaux de maîtres. C'était un signe extérieur donc de richesse, de puissance qui impressionnait toujours le visiteur quand on rentrait dans sa pièce de vie où il y avait un mur qui était recouvert de nombreux tableaux. Et donc évidemment ça aide beaucoup les affaires des peintres et en particulier bien sûr de Jacques Jordaens. En outre, eh bien nous sommes aussi en pleine période de la contre-réforme où l'Église catholique est bien puissante et puis soutenue par le roi d'Espagne, eh bien passe de nombreuses commandes tant aussi bien à Rubens, à Van Dyck que à Jordaens pour bien sûr eh bien décorer les églises de la ville d'Anvers et d'ailleurs. Il reçoit même des commandes de l'extérieur, comme de la cour d'Angleterre. Malheureusement, un événement terrible va survenir. C'est la mort de son ami Rubens en mai 1640, et qui d'ailleurs va être suivi très vite par la disparition d'un autre grand peintre en 1641, Van Dyck. Alors, Jordaens, eh bien, est considéré comme le plus grand peintre des Pays-Bas méridionaux. Jordaens terminera d'ailleurs deux tableaux qui avaient été commencés par Rubens, le tableau donc nommé Héraclès et un autre Andromède. Une fois de plus, Jordaens, eh bien, lui, ne cache pas, bien sûr, sa sympathie pour l'Église réformée, malgré certaines menaces, comme celle effectuée par une famille d'orfèvres, les Van Mal, et où il est menacé, là, cette fois, avec des couteaux. Et donc, évidemment, cette menace, eh bien, l'affecte, hein, évidemment, mais les autorités de l'époque aiment beaucoup Jordaens et le protègent, et si bien qu'il condamne la famille Van Mal à ne plus rencontrer la famille Jordaens. Jordaens va continuer d'ailleurs à recevoir de nombreuses commandes, en particulier de la ville de La Haye. Il reçoit aussi une grosse commande de la reine de Suède. Alors, la reine de Suède, d'ailleurs, elle va lui envoyer des élèves pour apprendre à peindre dans l'atelier de Jordaens. Comme on l'a évoqué, donc, eh bien, il y a toujours ce conflit des protestants contre les catholiques, mais grâce à la paix de Westphalie en 1648, eh bien, on va aborder une période de plus grande tolérance, si bien que Jordaens, cette fois, eh bien, va de plus en plus se pencher sur la religion réformée calviniste, mais encore une fois, ça ne l'empêchera pas de mener ses affaires avec en particulier l'Église catholique qui lui commande de nombreux tableaux.
Waar leeft een mens nog Bourgondisch? Waar is het altijd een feest? Bij ons in Vlaanderen, bij ons in Vlaanderen. Hier zijn de mensen gastvrij en iedereen die hoort erbij. Bij ons in Vlaanderen, bij ons. Gezelligheid staat hier nog bovenaan. Het heeft een plaatsje in mijn hart en dat gevoel is zo apart. Er valt hier zoveel te doen.
mensen tevreden. Het gevoel van hier is altijd oké.
Bij ons in Vlaanderen, bij ons in Vlaanderen. De tijd die lijkt hier soms nog stil te staan. Gezelligheid staat hier nog bovenaan. Het heeft een plaatsje in mijn hart. En dat gevoel is zo apart. Er valt niet zoveel te beleven. Ik ben en blijf hier in leven. Misschien weet jij wat ik bedoel. Het geeft altijd zo'n fijn gevoel. Met heel mijn hart hou ik van Vlaanderen. Het allermooiste dat bestaat. Wie jij ook bent, kom jij hier niet vandaan. Het maakt ons niet uit. Kom op en sluit maar aan. Het heeft een plaatsje in mijn hart. En dat gevoel is zo apart. Er valt hier zoveel te beleven. Ik ben en blijf hier in mijn leven. Misschien weet jij wat ik bedoel. Het geeft altijd zo'n fijn gevoel. Met heel mijn hart hou ik van Vlaanderen. Het allermooiste dat bestaat.
Steve Tillens, vous interprétez Bij ons in Vlaanderen, chez nous en Flandre. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus 104.3.
Donc Jacques Jordans reçoit de nombreuses commandes de la cour de Suède. Malheureusement, ses peintures vont disparaître lors de l'incendie du château. Il continue aussi à travailler en particulier pour les Pays-Bas du Nord, où il exécute entre autres plusieurs grands tableaux comme Le temps fauchant la calomnie, Le vice et la mort étranglant la jalousie, Le triomphe, tableau donc consacré lui au prince d'Orange et qui date de 1652. Évidemment, les tableaux de Maître Jordans, eh bien, ce n'est pas uniquement des tableaux pour, je dirais, la décoration pure et simple. À chaque tableau, il y a toute une symbolique, il y a tout un thème. Et il faut savoir, bien sûr, lire ces tableaux qui ne sont pas totalement innocents. Ce n'est pas uniquement pour faire joli. Jordans, malheureusement, il est poursuivi pour des écrits jugés hérétiques. Et d'ailleurs, il se voit imposer de fortes amendes. Il va d'ailleurs traîner plusieurs procédures de justice entre 1651 et 1658. En 1659, malheureusement, son épouse Katharina von Nort décède le 17 avril 1659. Il en est particulièrement affecté. Et elle sera enterrée non à Anvers, mais elle va passer la frontière pour être enterrée donc dans une petite commune calviniste donc des grands Pays-Bas du Nord. Il exécute aussi toujours pour le roi de Suède toute une série de 12 tableaux qui représentent la Passion du Christ. Il travaille pour l'hôtel de ville d'Amsterdam avec en particulier un tableau représentant les Philistins mis en fuite par Samson. Il travaille d'ailleurs beaucoup à cette époque-là pour la ville d'Amsterdam. Il avance en âge en 1669, il a alors 76 ans, ce qui est quand même remarquable pour l'époque. Mais il continue néanmoins à peindre avec beaucoup de raffinement et de grande maîtrise dans ses gestes qui impressionnent en particulier ses visiteurs, comme Guillaume III d'Orange.
Thank you.
rondo italien interprété par le groupe Saltabraz. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus 104.3.
Et Saltabraz étant un groupe, bien sûr, des Flandres. Donc aujourd'hui, eh bien, nous évoquons donc Jacques Jordaens. Alors Jacques Jordaens, eh bien, une très grande réputation à Anvers, mais aussi bien au-delà de Anvers, puisque il reçoit des commandes de la cour d'Angleterre, de la cour de Suède, des Pays-Bas du Nord. Et d'ailleurs, Guillaume III lui rend visite, mais il est déjà bien âgé. Nous sommes en juin 1677, et notre homme a quand même bien avancé en âge. Et d'ailleurs, il décède un an plus tard, le 18 octobre 1678. Il a alors 85 ans. Il est certainement décédé suite à une épidémie qui sévissait à Anvers. D'ailleurs, sa fille Elisabeth meurt le même jour que lui. Il sera enterré, lui aussi, dans un petit village donc de calvinistes aux Pays-Bas du Nord et non en terre des Pays-Bas méridionaux. Alors que dire de l'œuvre de ce grand peintre flamand ? Eh bien, il y a un tableau qu'on connaît presque tous, c'est le fameux tableau Le Roi Bois, où on voit donc le roi à le verre à la main, en compagnie d'une joyeuse compagnie, et on voit bien que là, il y a femme, enfant, joyeux drill, qui se donne à la boisson, mais c'est un tableau particulièrement... riche en couleurs, en dessins, c'est absolument superbe. Il y a aussi, j'aime bien, c'est le tableau de son autoportrait, où on le voit d'ailleurs richement habillé, et son épouse Elisabeth qui est assise. Eh bien là aussi, on voit des habits absolument somptueux avec sa fille Elisabeth. Et même la servante est richement habillée, c'est dire la richesse de la famille Jordaens. Donc c'était vraiment quelqu'un qui était puissant dans la ville d'Anvers. Un autre tableau que, à titre personnel, j'aime bien, c'est la chute de l'homme, où l'on voit Adam et Ève, bien sûr, dans la fameuse scène biblique, hein, où, bien sûr, Ève succombe au charme du serpent et entraîne son époux Adam. Et on voit donc à travers ce tableau Adam assis qui eh bien tend la main pour bien sûr prendre la fameuse pomme. Donc un tableau bien sûr tout en symbole encore une fois. Et d'ailleurs il s'inspirera beaucoup de la Bible. Le peintre Jordaens. Cette réputation, donc, elle dépassera à travers les siècles, et aujourd'hui, on ne peut que vous inviter, bien sûr, à découvrir, redécouvrir ce grand peintre qu'est Jordaens. Sa peinture, ses dessins s'inspirent donc, bien sûr, de la Bible, mais aussi de mythologie, hein, des œuvres plus profanes qui sont empruntées bien souvent à la vie populaire, hein, de l'époque. Il illustre bien sûr des fables, des proverbes. Il fait aussi beaucoup de tableaux avec des scènes animalières. Alors, il s'inspire bien sûr énormément des peintres de son époque, hein, tels Jan Brueghels, l'ancien, mais aussi, bien sûr, on en a parlé tout au long de cette émission, de son ami Rubens, en particulier avec lequel il a travaillé donc pendant plus de 20 ans, et puis aussi d'autres peintres un peu moins connus comme Abraham Janssens von Neusen ou Hendrik van Balen, mais qui à l'époque, bien sûr, étaient des peintres de renom. Alors, il y a aussi un tableau qui est particulièrement à relever, c'est l'adoration des bergers, le satyre et le paysan. Bref, énormément de peintures que l'on peut découvrir dans un très beau livre qui a été d'ailleurs constitué lors de l'exposition Voici 4 ans par la ville de Paris, hein, donc c'est un ouvrage édité donc par le musée des beaux-arts de la ville de Paris, où on reprend une grande partie de ses œuvres dans de belles photographies de ses tableaux, et qui vous permettra bien sûr de découvrir ce grand peintre flamand qu'est donc Jacob Jordaens. L'émission touche déjà à sa fin. Eh bien, nous allons vous souhaiter une excellente semaine sur les ondes de Radio Plus 104.3, mais aussi sur le site internet, donc www.radioplus.fr. Bonne semaine à vous.
Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuim uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Noorse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duin de grijze nevel valt, wanneer bij op het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn. Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in donne regelmaat en bolle oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht onze nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijsteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keilie is, wanneer de noordwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de Schelde blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon, wanneer de eerste spin zijn lentewebben weeft of dampende het veld in juli zonlicht beeft, wanneer de zuidenwind er schatert door het kraan, wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan, dan juicht mijn land, mijn vlak land. Maar als een vriend je durft te verraden.